prise de terre.
Tu crois qu'ils ont encore des automobiles?
Mais enfin, je pense quand même qu'en 200 ans, ils ont eu le temps de s'en débarrasser des automobiles.
Le magazine de l'environnement.
Je suis surpris par le nombre de voitures. J'étais venu il y a une dizaine d'années, mais c'était un tas de 4500 voitures qui étaient entreposées là-bas. Et je voyais la grande pince qui les prenait et qui les cassait comme ceci. C'était assez intéressant à voir. Il n'y a pas ça actuellement, je suis surpris. Il me disait qu'il y avait moins de voitures qui arrivaient actuellement.
Ah, ouais. Donc les gens les gardent plus longtemps.
Peut-être, ce serait intéressant.
Messieurs, dames, c'est mon collègue Bernard Bijov qui va vous accompagner. Il va vous amener d'abord à la réception pour enfiler un casque. D'accord ?
Ok.
Le port du casque est obligatoire là-bas. Bienvenue chez nous.
Construire, conduire, détruire et recommencer. Ainsi va la civilisation de l'automobile. Encore que, quand je dis détruire, c'est un peu pour faire joli dans la formule, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que, en vrai, dans la vraie vie, en Suisse, plus de 90% d'un véhicule en fin de vie et expédié à la casse est recyclé. Belle performance et cycle vertueux, me direz-vous, mais pas assez pour Lucien Villemain, pour qui l'automobile est source d'un immense gaspillage. Et il le dit dans un opuscule qui vient de paraître aux éditions d'En Bas, « Halte au gaspillage automobile ». Il y a 10 ans, Lucien Villemain avait déjà plaidé la cause des voitures d'occasion dans un précédent petit livre intitulé « En voiture Simone ». Cette fois, c'est aux politiques publiques qu'il s'en prend. La fin annoncée des moteurs thermiques qui motive, soutient et incitation à bazarder sa vieille caisse au profit d'un rutilant modèle électrique serait une grave erreur de calcul. Gaspillage d'un côté, surproduction et donc exploitation des ressources de l'autre, et au final un bilan écologique global catastrophique, pas toujours bien évalué dans les éco-bilans, toujours selon Lucien Villemain. Alors que faut-il en penser? A-t-il raison, Lucien Villemain, de sonner l'alarme? Pour le savoir, j'ai invité le militant écologiste à rencontrer et débattre avec un scientifique spécialiste en éco-bilan, l'ingénieur en environnement Sébastien Humbert. Et nous nous sommes retrouvés sur les lieux du crime, la plateforme de recyclage automobile Barec à Écublens, parce qu'on n'appelle plus ça une casse. Donc. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, tout commence évidemment par une visite commentée par le maître des lieux, le directeur de la plateforme, Roger Blessy. Suivez-nous et surtout, surtout, mettez de bonnes chaussures, bien fermées, ou vous pourriez vous blesser.
Alors ici, on arrive dans la station de dépollution des voitures uniquement. C'est la seule station suisse qui existe, qui fait ça de manière professionnelle et industrielle. Donc c'est les voitures qui sont pour le recyclage, on les achète, on les pèse, c'est payé à la tonne. Le prix change chaque mois par rapport au LME, donc les métaux et la ferraille du mois. Et après, nous, on dépollue. On enlève tous les liquides, on aspire tous les liquides et on enlève tout ce qui est polluant. Donc batterie, catalyseur, pneus, roues et pare-choc. Et tout ce qui est huile, essuie-glace, tout ça c'est amené chez Crydec, donc un recycleur spécialisé pour les déchets spéciaux. C'est détruit, ça coûte.
Combien de voitures arrivent ici chaque jour?
Environ 50 à 70.
Quel est l'âge moyen des véhicules qu'on vous apporte?
Entre 17 et 20.
Et ce sont toujours des véhicules entièrement hors d'usage?
Les voitures qui arrivent chez nous, oui. Vraiment VHU, véhicules hors d'usage, ils sont destinés au recyclage.
Alors justement, quel est le taux de recyclage? Quel pourcentage du véhicule est recyclé et comment?
93%. Plus, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de plastique dans une voiture, mousse, verre, il y a beaucoup de choses qui se recyclent, mais malheureusement 7%, c'est incinéré. Ouais. Tout ce qui est ferraille, c'est recyclé. Tout ce qui est aluminium, bien sûr, c'est recyclé. La seule chose qui est incinérée, c'est le cuir, le simili des sièges, la mousse des sièges, les tapis, ce genre de choses.
Alors, il y a un défi qui va se présenter bientôt à vous, c'est les batteries des voitures électriques.
C'est un énorme défi pour nous, Claire. On est prêt avec cette station de dépollution. Il y en a trois stations. Une, elle sera certainement dédiée à la voiture électrique. Le défi chez nous, c'est qu'une batterie électrique, une voiture, c'est pas du 12 volts, c'est beaucoup plus dangereux. Donc on doit former les gens, il faut des installations spécialisées. Ça s'est lancé chez nous. Nous, on va certainement s'arrêter au démontage de la batterie. Ça s'arrête là. Et après, il faut une usine spécialisée qui recycle les batteries. Mais ça, ce n'est pas encore très clair où ça va se faire et comment.
Je peux juste poser une question. Oui. Selon votre connaissance au niveau mondial, est-ce qu'il existe déjà des usines qui fonctionnent pour recycler les batteries de voitures électriques? Oui. Elles sont où ou quelle entreprise?
En Allemagne et en France, ça existe.
Okay. Donc la filière technologique, elle existe, ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est que démonter une batterie, c'est le premier challenge. Stocker la batterie de voiture, c'est encore presque plus important et plus dangereux pour nous. Et le transport, c'est tellement compliqué. Moi, je dis franchement, je ne veux pas stocker une centaine de batteries au lithium de voiture ici sur le site d'Équimelan. Ça ne nous intéresse absolument pas. Beaucoup trop dangereux. Parce que ces batteries peuvent s'enflammer à n'importe quel moment. Chaud, froid, mouillé, humide, sec, on ne sait pas.
Et moi, je m'attendais à voir ces grosses machines qui aplatissent les voitures, tout ça, vous n'avez pas ça?
Alors, la grosse machine qui aplatisse les voitures, ça c'est du passé, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on les broye. Donc la voiture, elle est broyée intégralement. Parce qu'une fois dépolluée ici, on peut la broyer tout de suite.
Elle se broie où?
Elle se broie de l'autre côté du site. Je vais vous mettre quelqu'un à disposition qui me montrera le broyeur, il n'y a pas de souci. Donc c'est Monsieur Cédric Propre qui va venir, c'est le chef d'exploitation. Donc lui connaît tout le site, il va vous expliquer ce que notre plus grande machine du groupe fait et comment elle fonctionne.
De pilotage du broyeur maintenant. Voilà, super. Ici, donc, vous êtes dans la cabine de pilotage du broyeur. Après la dépollution des VHU, l'étape suivante, c'est sa destruction et la séparation des différentes fractions. Les aluminiums, les inox, les cuivres. Et toutes ces fractions, l'installation permet de les séparer, de les isoler pour après, évidemment, les expédier chez nos exutoires.
Qu'est-ce que ça représente en poids?
Alors là, nous avons en ce moment la capacité de stocker à peu près, Georges, combien? 2000 tonnes à peu près dans la fosse, hein, 2000 tonnes de ferraille.
Lucien Villemin, c'est plutôt vertueux, ce système?
Oui, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si un objet finit trop vite dans une décharge, on peut pas parler d'un effet vertueux.
Bon, les voitures qui arrivent ici, on l'entendait tout à l'heure, elles ont quand même une vingtaine d'années. C'est déjà une belle vie pour une voiture.
Ouais, j'en ai vu qui n'avaient pas 20 ans, hein, tout à l'heure sur le parc, personnellement. Il y avait une Zafira qui n'avait pas 20 ans, là. Mais bon.
Bon, alors vous, Lucien Villemin, vous êtes un peu en colère contre un système global qui nous incite plutôt à précisément jeter, même si l'on recycle, plutôt que de prolonger la durée de vie des objets, notamment des voitures. On va se mettre dans un coin un petit peu au calme, un peu en retrait, devant ce magnifique paysage industriel quand même. Et puis on va parler de ça, d'accord?
Ok.
Merci messieurs.
Je vous en prie.
Pour repartir, on suit le même chemin. Donc.
Voilà. Voilà. Vous accompagner parce que ici, c'est pas...
Ouais, c'est vrai, ici c'est quand même dangereux, hein. Il y a quand même plein de petits bouts de métal comme ça partout. C'est pour ça qu'il faut être bien chaussé. Bien, c'est finalement dans l'atelier de maintenance que nous avons trouvé refuge. Cédric Propre, donc, responsable technique de la plateforme. Sébastien Imbert, ingénieur en environnement et spécialiste en éco-bilan. Et bien sûr, Lucien Villemin. Lucien à qui j'ai d'abord demandé ce qu'il avait à ajouter 10 ans après en voiture Simone avec ce nouvel opuscule qui paraît aux éditions d'en bas et dont je vous rappelle le titre. Halte au gaspillage automobile. Prenez soin de vous. Achetez l'occasion.
Premièrement, c'est de mettre en lumière le gaspillage automobile dans l'esprit collectif et l'inscrire dans l'esprit collectif, parce qu'actuellement, on n'est pas vraiment conscient qu'on gaspille des voitures. Ça, c'est important de le mettre, en tout cas dans le verbe habituel. Deuxièmement, c'est de démontrer que pourquoi garder sa vieille voiture pour le moins qu'on a acheté une neuve. Troisièmement, c'est de mettre en lumière qu'on ne connaît pas le nombre de voitures que nous avons en Suisse. C'est-à-dire que les voitures non immatriculées ne sont pas répertoriées. C'est-à-dire, je pose la question, comment peut-on légiférer correctement avec des statistiques incomplètes? Donc ça, il s'agit de revoir ça. Quatrièmement, c'est de mettre aussi en lumière que la focalisation climatique nous pousse à une certaine forme de gaspillage, parce que pour consommer moins d'énergie, nous sommes invités, voire incités à consommer plus de matériel, et ce matériel, il faut le fabriquer. Et dernier point, c'est au niveau des garagistes, c'est de vraiment informer aussi que ce système-là est vraiment très dur pour les garagistes, parce que c'est à eux que revient la lourde tâche de financer ce parc automobile, ce surplus automobile. Mais ce qui se passe, il faut savoir, c'est qu'une voiture, c'est environ 180 000 composants en moyenne. Donc quand on a 2 à 3 composants qui ne fonctionnent pas, on jette. Ce qui veut dire que on jette 179 900... Vous avez compris.
Voilà. Bon, en même temps, vous le savez, on est face à un défi écologique énorme aujourd'hui. L'une des raisons qui pousse les politiques publiques à encourager les automobilistes soit à cesser d'être automobilistes, soit à aller vers des véhicules plus propres, et notamment vers les véhicules électriques, c'est qu'on a deux défis. Un défi de santé, avoir un air plus respirable, et un défi climatique qui consiste à baisser nos émissions de CO2. Donc, ces voitures que vous nous encouragez à garder sont globalement des voitures plus polluantes quand même.
Alors, ce qui se passe, le problème, c'est que... De quelle population parle-t-on ? Un air plus respirable pour nos enfants ici, mais les enfants d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans notre partie, ces voitures ne finissent pas ici, en fin de vie. Elles finissent leur vie en Afrique ou ailleurs.
Ah ben là, ici, elles finissent ici, en tout cas, tout dans cette casse, okay. Ici, à Écublanc.
Mais une grande partie des voitures qui sortent de Suisse, plus de 100 000 voitures qui sortent chaque année de Suisse, 150 000, celles-ci finissent ailleurs. Elles continuent à polluer, même plus qu'ici, du fait que c'est dans des pays qui ne sont pas normés comme ici, où il n'y a pas les contrôles d'ici. Donc, finalement, on empire la situation plutôt que de l'améliorer. Donc, l'exportation de voitures, c'est aggrave la situation globale.
D'ailleurs, ce que vous dites également dans ce petit livre, c'est qu'on est peut-être trop focalisé sur la lutte contre le réchauffement climatique et pas assez sur l'effondrement de la biodiversité à laquelle la construction des véhicules automobiles contribue.
Complètement. On oublie trop la pollution chimique. Cette pollution chimique, c'est de comprendre qu'au moment où on fabrique un objet, non seulement on a besoin d'énergie grise pour le fabriquer, mais on a besoin de filières chimiques. Et plus un objet est imposant, plus la filière chimique est imposante aussi. Donc plus un objet est complexe, comme la voiture, plus c'est beaucoup de chimiques qui sont donc des substances toxiques qui sont envoyées dans l'eau, l'air et les sols. Et ça, c'est quelque chose, c'est une composante dont on ne tient pas compte. Nos bilans ont de la peine à calculer ça. Ils ne peuvent pas le calculer, à la limite. Donc c'est-à-dire que là aussi, on a quelque chose d'incomplet. Donc on est très focalisé sur le CO2. Je comprends, c'est important. Mais on voit qu'une bonne partie des voitures qui sont changées, qui partent d'ici par rapport à nos écobilans que nous invitent à changer, finissent ailleurs et continuent à polluer, à émettre même plus qu'ici. Et d'autre part, la fabrication des nouvelles, mais c'est des empoisonnements de vivants à chaque fois. C'est qu'à chaque fois qu'on fabrique une voiture neuve, à chaque fois, on a besoin d'envoyer, et c'est factuel, on a besoin d'envoyer dans l'eau, l'air et les sols, des substances toxiques pour le vivant. Donc, plus on fabrique d'objets, plus on empoisonne le vivant.
Alors, ça tombe bien, puisque vous parlez d'éco-bilan. On a un spécialiste en éco-bilan avec nous aujourd'hui, Sébastien Humbert, qui est ingénieur en environnement. C'est pertinent. Les propos de Lucien Villemin sont pertinents. Il vaut mieux, d'un point de vue éco-bilan, écologique, utiliser son vieux véhicule, fût-il diesel, que de changer de véhicule et de passer à l'électrique, par exemple.
Le principe d'un éco-bilan, c'est de prendre en compte différentes problématiques. On parle beaucoup du CO2 parce que c'est en général l'indicateur que monsieur et madame tout le monde comprend, ont suffisamment des nouvelles. Mais lorsqu'on nous mandate pour calculer l'éco-bilan d'une voiture, on va regarder la consommation de ressources, la consommation de cuivre, les émissions de particules à la mine, les émissions de particules lorsqu'on l'utilise. Pour le pétrole, on va regarder l'impact écologique de l'extraction du pétrole, la construction du pipeline, les raffineries. On fait un bilan global et puis en fonction de ce qu'on appelle l'indicateur, la réponse va changer en disant, bon, à partir de 1000 km, ça vaut la peine de changer sa voiture. Puis pour un autre indicateur, c'est à partir de 8000 km. Mais en moyenne, ça fait qu'entre 20 et 30 000 km par année, il n'y a pas de débat. Toute voiture qui utilise du pétrole, ça vaut la peine au niveau bilan global de la recycler et de la remplacer par une voiture électrique, surtout si elle est alimentée avec de l'électricité renouvelable. L'impact de produire une batterie, bah, il existe, il y a des mines, il faut raffiner le lithium, etc. En moyenne, ça augmente Le bilan écologique d'une voiture, de l'ordre aller de 10 à 20% en fonction de ce qu'on regarde.
Par rapport à une voiture à moteur thermique.
Par rapport à une voiture au pétrole, pour faire simple, que ce soit une diesel, une essence ou gaz naturel. L'intérêt de cette voiture électrique, c'est qu'ensuite on peut l'alimenter avec de l'énergie qui est renouvelable. Donc quand je parle d'énergie renouvelable, je parle bien de solaire. Et c'est vraiment le facteur principal qui différencie une voiture électrique d'une voiture à essence en termes de bilan écologique global. C'est le fait qu'actuellement, on n'a pas le choix, quand on va à la station essence, d'avoir de l'essence renouvelable. Si l'essence renouvelable existait, bah, à la limite, ne changez pas de voiture et puis faites le plein avec de l'essence renouvelable. Mais actuellement, l'essence, elle vient du pétrole. Et le pétrole, ça pollue à extraire, ça pollue à transporter et ça pollue lorsqu'on brûle. Donc, si vous passez sur une voiture électrique et que vous faites le pas suivant qui est d'installer des panneaux solaires et d'alimenter ces voitures avec de l'électricité solaire, par kilowattheure, l'électricité solaire est beaucoup plus écologique que l'énergie au pétrole. Et là, ça devient très intéressant d'avoir une voiture électrique par rapport à une voiture à pétrole.
Le problème, tout de même, et ça c'est un problème qui est soulevé par Lucien Villemin dans son livre, ce sont les politiques publiques aujourd'hui. Les politiques publiques, suisses, comme en France, comme en Europe en général, sont construites pour encourager les automobilistes, les citoyens, à changer de véhicule, quel que soit finalement le schéma dont vous nous avez parlé. Même si j'utilise peu mon véhicule, d'ici quelques années en France, par exemple, dans certaines villes ou à Genève, je ne pourrai plus accéder, par exemple, avec les vignettes critères pour la France, stickers pour Genève. On restreint ma possibilité de rouler où je veux, quand je veux, avec mon véhicule thermique. Et ça, vous êtes opposé à cette politique-là, Lucien Villemin.
Oui, vraiment, parce que ça nous pousse au gaspillage, clairement. C'est-à-dire que quand on a une ville comme Lausanne qui annonce que d'ici 2030, il n'y aura que les véhicules électriques qui traverseront la ville, même si sur le plan juridique, la ville de Lausanne ne peut pas décider des choses comme ça, ça a quelques influx au niveau de la population. Il y a une chose qu'on n'a pas encore dit ici. C'est qu'effectivement, avec une voiture qui consomme moins d'énergie, je peux effectivement compenser tout ou partie l'énergie grise qui a été nécessaire pour la fabrication. La pollution chimique, elle, contrairement au CO2, ne peut pas être compensée à l'utilisation de l'objet. C'est-à-dire que j'ai beau faire des millions de kilomètres avec la même voiture, la chimie que cette voiture a envoyée dans l'eau, dans les sols et dans l'air à sa fabrication, j'ai beau faire des millions de kilomètres, je n'arriverai pas jamais compenser. Et ça veut dire qu'à chaque fois que j'achète une voiture neuve, à chaque fois, je participe à un empoisonnement supplémentaire quelque part sur la planète. Ce n'est pas ici que ça se passe, bien entendu. Ce n'est pas notre vie à nous, notre santé à nous, mais c'est la vie de gens qui habitent de l'autre côté de la planète. Et c'est ça que je demande. C'est une ouverture d'esprit, une ouverture de vision des choses pour non plus se focaliser, comme je l'entends ici maintenant, sur le pot d'échappement, sur le carburant, mais sur la globalité. Parce que les 180 000 composants, ça veut dire que c'est plusieurs centaines de milliers de pièces, qui sont, elles, transportées par des containers. Ces containers sont loin de la décarbonisation. Donc là, on a encore du pétrole, et c'est du pétrole, c'est des résidus pétroliers, c'est bien pire que le pétrole utilisé dans nos voitures.
Sébastien Imbert, comment vous réagissez aux propos et aux arguments de Lucien Villemin ?
Quand on parle de gaspillage, j'ai envie de dire le pétrole, c'est l'exemple même de la ressource qu'on gaspille. Si on brûle, on extrait un litre de pétrole qu'on brûle dans une voiture à essence pour la faire avancer, on n'a pas les ingénieurs, les ouvriers de Barrec qui courent derrière pour récupérer le CO2 et refaire du pétrole. Chaque litre de pétrole qu'on brûle est perdu. Quand il s'agit de fabriquer une voiture, là on est sur un site qui montre l'exemple du fait que cette ressource, le métal, l'aluminium, le cuivre, peut être récupérée. Donc toute utilisation de ressources pollue. Maintenant, il faudrait essayer d'aller vers des utilisations qui polluent le moins possible et idéalement qui peuvent être récupérées en fin de vie. Et là, la priorité, j'ai envie de dire, c'est de réduire notre consommation de pétrole. Une voiture qui brûle du 8 litres au 100, ça fait 8000 litres de pétrole les 100 000 km. Dans sa vie, elle a brûlé des tonnes de pétrole qu'on a perdu à tout jamais. Par contre, une question qu'il faudrait se poser, si on se dit oui, mais on va aller vers l'électrification de la société, certaines villes en 2030 vont interdire les voitures non électriques, il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce que les politiques publiques ne favorisent pas l'achat de voitures électriques en 2023 pour les personnes qui auront toujours besoin d'avoir leur voiture en 2030 et d'accéder à un centre-ville qui probablement interdira l'accès aux voitures à essence.
Alors là, je réagis tout de suite parce que c'est poussé au gaspillage de nouveau. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, cette pollution chimique qui n'est pas compensable par l'utilisation d'objets, ce raisonnement-là pousse à l'empoisonnement du vivant. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça que j'ai de la peine à comprendre quand je suis face à une personne quand même scientifique qui a fait d'autres études. qu'on puisse pas avoir cette pollution chimique qui n'est pas compensable par l'utilisation de l'objet. C'est peut-être quelque chose de nouveau, mais il faut prendre en considération. Et se dire que les éco-bilans qui nous invitent à changer de voiture participent et contribuent à l'empoisonnement du vivant. Et ça, c'est quand même important. Ça, c'est de l'écologie, en fait.
On parle pas la même chose. Moi, je parlais bien. Lorsqu'en 2023, quelqu'un, quelle que soit la raison, doit acheter une nouvelle voiture, la politique publique devrait pousser fortement pour une voiture électrique, vu qu'on va vers l'électrification, et essayer d'éviter de racheter en 2023 une voiture à essence qui risque de poser problème en 2030 lorsqu'on ne pourra plus accéder, par exemple, à un centre-ville.
Voilà. Ça fait sens. Et d'ailleurs, vous en parlez aussi dans votre livre. Vous dites, qu'est-ce qu'on va faire de notre voiture thermique qu'on achète aujourd'hui si dans 6 ans, il faut cesser de rouler avec. Vous, Lucien Villemin, puisqu'on parlait de politique publique, précisément, vous lancez un appel aux politiques.
Oui, un appel qui est signé par 10 personnalités du monde scientifique, reconnues pour leur travail, leur expertise au niveau climat, environnement, sociologie, économie et droits humains. L'idée est vraiment de pouvoir apporter des propositions concrètes pour mettre un frein à ce gaspillage, voir que le gaspillage cesse dans l'idéal. Et pour ça, on a une dizaine de propositions.
Concrètement et rapidement, disons 3 de ces mesures qui vous paraissent urgentes.
Alors une, c'est déjà, première chose très importante, c'est de comptabiliser les voitures non immatriculées. C'est important qu'on ait un état des lieux du parc automobile national pour qu'après, à partir de là, on puisse commencer à légiférer de manière un peu plus cohérente qu'est-ce qu'aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que c'est important aussi, mais c'est drastique, hein, c'est stopper les exportations. C'est de faire que nos véhicules vivent ici leur vie jusqu'au bout pour qu'on puisse justement récupérer la matière première comme c'est fait ici chez Thévenin Le Duc. Et troisième élément, vous me demandiez, hein, Lucille, il faudrait que je m'y remette en tête.
C'est vous qui avez écrit le livre.
Hein. Ouais, c'est ça.
Bon, je peux vous en donner une qui est précisément de proposer que la Confédération ou les politiques publiques encouragent et soutiennent l'électrification des moteurs thermiques.
Oui, effectivement, là, il y a une possibilité aussi. C'est-à-dire, plutôt que de jeter toute la voiture, c'est de pouvoir électrifier les voitures qui sont existantes. Vu que, comme je répète, 180 000 composants, plutôt que de jeter tous les composants, on change un élément qui permet de récupérer ces composants qui fonctionnent encore. Et là, on a des exemples de rétrofit, notamment en France. Des choses se font déjà maintenant. Il y a des exemples et je pense que ce serait bon de pouvoir faire ça. C'est de l'emploi local également, des nouvelles entreprises, un nouveau tissu économique qui peut se mettre en place.
Alors, un appel, c'est bien joli, il est dans le livre. Mais la suite de l'appel, c'est quoi? C'est une pétition? Une initiative?
Alors bon, il y a 200 garagistes qui ont signé une interpellation fédérale pour que l'on comptabilise le nombre de voitures. Et ça, c'est actuellement au fédéral, donc c'est au niveau des chambres. Cette semaine, une motion parlementaire qui va dans ce sens sera déposée au niveau de la chambre haute. Et à partir de là, les débats auront lieu en septembre.
Bon, merci messieurs. Merci aussi à vous, Cédric Prop, de nous avoir accompagnés, nous avoir fait visiter cette... Je ne sais même pas s'il faut l'appeler une casse automobile. Oui, c'est une casse automobile, mais c'est aussi une plateforme de recyclage.
Hein. Centre de recyclage, exactement, mais je vous en prie.
Bon, on repart, puisque comme on est dans une casse automobile, on ne peut pas y accéder en transport en commun. On est donc venu en voiture, mais une vieille voiture quand même, Lucien Villemin. Allez, on va la reprendre et on rentre.
Merci Lucie, parce qu'avec votre vieille voiture, vous prenez soin de ma vie. Hein. Ça fait plaisir, je vous remercie beaucoup.